Ce matin, le texte que nous allons aborder nous confronte à une question qui passionne habituellement les chrétiens. Comment discerner la volonté de Dieu? C'est un des thèmes sans doute les plus abordés dans les conventions de jeunesse où on se pose la question comment reconnaître mon futur, ma future épouse, comment choisir mon métier. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que j'aille à cette soirée, que je regarde cette série Netflix? Je crois qu'il n'y a pas si longtemps encore, à Pâques, c'était un des ateliers proposés aux jeunes qui y ont participé. Et bien sûr, l'espoir à chaque fois, c'est qu'en sortant de là, on sache quoi faire dans nos vies pour justement faire la volonté de Dieu. Alors, bonne nouvelle, si vous n'aviez pas encore la solution miracle, vous allez la voir ce matin. À la fin de cette prédication, vous saurez enfin comment faire la volonté de Dieu à coup sûr dans votre vie. C'est une blague, bien sûr, hein, mais on va quand même essayer de progresser, d'avancer. Et la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est de quoi parle-t-on finalement quand on parle de la volonté de Dieu? Parce qu'il y a d'abord ce qu'on peut appeler la volonté générale, cette volonté qui figure clairement dans la Bible, qui nous est clairement révélée. Et j'ai mis un certain nombre de versets, on ne va pas les lire, mais qui nous disent en gros que Dieu veut que nous soyons sauvés, que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons reconnaissants, que nous menions une vie sainte, que nous soyons soumis aux autorités. Voilà les choses que Dieu veut pour nous, et ça c'est clair. Et cette volonté révélée nous donne un cadre qui permet en fait de répondre à la plupart des situations que nous rencontrons sur cette terre. Mais bien sûr, il reste un certain nombre de choses au quotidien où on se dit « Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse là? Est-ce qu'il a une préférence? Est-ce que je devrais déménager de cette ville ou rester dans ce travail tout en supportant les relations un peu difficiles? Est-ce que je devrais avoir un chien à la maison? Est-ce que je devrais commencer une collection de timbres-poste ?» C'est ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que Dieu a une volonté spécifique pour chaque chose? Ou est-ce que, si on s'inscrit dans la volonté générale de Dieu, finalement, nous avons toute liberté pour choisir là-dedans? Est-ce que si je ne fais pas la volonté spécifique de Dieu, je suis en train de lui désobéir? Ça, c'est une autre manière de poser la question. Alors que nous réfléchissons depuis plusieurs mois au grand thème de la mission de l'Église, à partir du livre des Actes, vous allez voir que notre texte de ce matin, qui s'intègre dans cette grande révélation de ce qu'est la mission de l'Église, jette, me semble-t-il, un regard inspirant sur toutes ces questions. Il nous donne des principes pour discerner la volonté spécifique pour notre vie, mais au sein de cette mission plus générale que Dieu est en train d'accomplir au sein de cette mission qu'il a donnée à l'Église. Alors, je vous rassure, ou peut-être je vous déçois, il n'y aura pas à la fin du message le lien vers une application Android où vous pourrez rentrer votre question et avoir la réponse de ce que Dieu veut faire. Mais voilà, quelques principes pour mieux aborder ces questions. Et je vous propose de prendre vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 21, et nous allons lire les versets 1 à 14. Acte 21, versets 1 à 14, et le texte est projeté. Après nous être séparés d'eux, nous avons pris la mer et nous avons mis directement le cap sur l'île de Kos. Puis le lendemain, nous avons continué sur Rhodes, et de là vers Patara. Pendant notre escale, nous avons trouvé un navire en partance pour la Phénicie. Nous nous y sommes embarqués et nous avons pris le large. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé sur notre gauche et nous avons continué notre route vers la Syrie pour débarquer à Tyr, où le navire devait livrer sa cargaison. Il y avait là des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseiller à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Malgré cela, une fois cette semaine écoulée, nous sommes partis pour continuer notre voyage. Ils nous ont accompagnés, tous avec leurs femmes et leurs enfants, à quelque distance de la ville. Là, nous nous sommes agenouillés sur le rivage pour prier. Puis avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés à bord du bateau et les croyants s'en sont retournés chez eux. Nous avons terminé notre voyage par mer en allant de Tyr à Ptolémaïs. Dans cette ville, nous avons salué les frères et passé une journée avec eux. Dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, le prédicateur de l'Évangile. C'était l'un des sept hommes que l'on avait élus à Jérusalem et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles non mariées qui étaient prophétesses. Nous étions là depuis quelques jours lorsqu'arriva de Judée un prophète appelé Agabus. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des non-Juifs. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là ? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes ? Je suis tout à fait prêt non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. » Jusque-là, la lecture ce matin. Le Saint-Esprit est bien sûr le facteur clé du chrétien pour discerner la volonté de Dieu. La volonté générale, on l'a dans la parole. Saint-Esprit a participé à l'écriture de la parole et il nous aide à la comprendre. Et là, on entend dans ce texte une action spécifique du Saint-Esprit qui nous aide justement à prendre des choix, comme on l'a entendu dans ce passage. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'un des buts du livre des Actes, mettre en avant ce privilège incommensurable de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Mais si l'action du Saint-Esprit est omniprésente dans le livre des Actes, elle n'est pas si simple à synthétiser, et on l'a vu à plusieurs reprises dans notre série. Concernant la volonté de Dieu, une lecture superficielle pourrait nous donner l'impression que Paul, Pierre, les autres sont un peu comme téléguidés par le Saint-Esprit dans leurs décisions, ce qui est quand même un atout majeur et nous facilite la tâche quand c'est le cas. Vous vous rappelez de la vision que Pierre a eue de cette nappe où des animaux impurs sont là et où le Seigneur l'encourage à aller chez Corneille. On a aussi été confronté à cette vision du Macédonien qui apparaît dans un rêve à Paul pour l'encourager à passer en Europe. Mais il y a nombre de passages où les choses sont bien plus complexes que cela. Paul et Barnabas, deux hommes remplis du Saint-Esprit, qui pourtant se séparent pour accomplir leur mission chacun de leur côté. Paul qui veut annoncer l'Évangile en Asie et le texte, Luc, qui nous dit « le Saint-Esprit qui l'en empêche » de le faire, et ça non plus, ça colle pas trop avec ce que l'on aurait l'impression. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comment le Saint-Esprit peut-il empêcher Paul d'annoncer l'Évangile en Asie ? Et ce matin, dans notre passage, on a l'impression, je ne sais pas si vous l'avez perçu à la lecture, que le Saint-Esprit donne deux consignes opposées à deux groupes de disciples qui cherchent pourtant à faire sa volonté. On est à la fin du troisième voyage missionnaire et Paul est donc en route pour Jérusalem. Et il est pressé. Il veut être pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et vous rappelez, on l'a vu il y a deux dimanches, c'est pour cela qu'il ne s'est pas arrêté à Éphèse, qu'il a fait venir les anciens d'Éphèse à Troas et qu'il les a enseignés là. Depuis un certain temps, Paul a deux idées en tête. Aller à Rome, on l'a entendu aussi dans les passages que nous avons lus ces dernières semaines, mais avant cela, passer par l'étape de Jérusalem. Et s'il veut passer par Jérusalem, c'est probablement pour deux raisons. Il a levé une collecte parmi les chrétiens de Grèce pour soutenir ceux de Judée, ceux de Jérusalem. Ça, c'est la première raison, et il veut mener à bien cette mission. Et la deuxième, c'est que bien, Jérusalem, c'est là où tout a commencé. Et Paul a certainement ce désir de profiter de la fête de la Pentecôte qui réunit bon nombre de Juifs pour faire connaître les avancées de l'Évangile en terre païenne. Mais quelque chose est venu troubler un peu ses projets depuis quelque temps déjà, et on l'a déjà entendu là aussi dans le discours de Paul aux anciens. Maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Et dans notre passage de ce matin, en fait, ces avertissements reviennent dans la bouche des disciples, on l'a entendu. Il y avait là des disciples, et après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Et un peu plus tard, à Césarée, ça s'amplifie encore. On a même une effervescence prophétique assez unique dans le Nouveau Testament. Paul est à Césarée, chez Philippe. Il y a là 4 femmes non mariées dont on dit qu'elles ont le don de prophétie. Et comme si ça ne suffisait pas, Agabus vient de Jérusalem pour prophétiser. Agabus, on l'a déjà rencontré un peu plus tôt, c'est un prophète reconnu, il a prophétisé une famine en Judée. Et là, il vient, à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, faire une leçon de choses en prenant la ceinture de Paul et en prophétisant que Paul serait emprisonné lorsqu'il arriverait à Jérusalem. Et à chaque fois, Luc souligne, et il s'associe même aux disciples en disant « nous », que les disciples ont exhorté, ont encouragé Paul à ne pas aller à Jérusalem. Et vous avez noté la réponse de Paul. Que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur? Je suis prêt à tout. Non seulement aller en prison, mais même mourir à Jérusalem pour le Seigneur de Jésus, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul va à Jérusalem, malgré les avertissements, malgré le fait que ces personnes viennent à lui en étant poussées par le Saint-Esprit. Il ne contredit pas leur inspiration, il en tire juste une autre conclusion. Et ça nous interroge sur comment vivre la volonté spécifique de Dieu dans notre vie. Intuitivement, on a l'impression que le Saint-Esprit ne peut pas d'un côté convaincre les disciples de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem et de l'autre de convaincre Paul d'y aller quand même. Il y a quelque chose qui nous semble contradictoire. Il y a quelque chose qui nous ramène à cette question que l'on se pose quand on s'interroge sur cette volonté spécifique de Dieu. On se pose la question généralement comme cela. Seigneur, que dois-je faire ? D'un côté, un avis, de l'autre, un autre. Et là, on se dit, ça colle pas. Devant l'idée de la volonté spécifique de Dieu, pour nous, il y a généralement 2 options. Soit je fais A, soit je fais B. Dans notre esprit, si Dieu a une volonté pour nous, il veut que nous fassions l'un et pas l'autre. Mais quand même, quelque chose de bizarre. Parce qu'au lieu de nous le dire clairement, on a l'impression que Dieu s'amuse à nous faire passer un quiz. Il s'amuse au casse-tête chinois avec nous. Essaye de deviner ma volonté. Étrange. Une autre option, et on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, ce serait de se dire, mais en fait, non, il n'y a pas de volonté spécifique. À ce moment-là, les contradictions sautent. Sauf que ça ne colle pas bien avec ce que l'on lit ce matin, où on voit que le Saint-Esprit est pleinement à l'œuvre dans cette histoire de savoir si Paul doit aller ou non à Jérusalem. Alors, volonté spécifique ou pas volonté spécifique? Un Saint-Esprit qui se contredit ou une autre manière de lire ce passage. J'aimerais faire trois remarques sur ce texte qui vont nous aider, je l'espère, à repérer trois principes quant à la volonté spécifique de Dieu dans notre vie. Première remarque, il nous faut faire preuve d'une certaine prudence. On l'a dit tout à l'heure, le but de la Bible, c'est de nous révéler la volonté générale de Dieu. La volonté pour tous les hommes, pas de me téléguider en toutes circonstances. Alors bien sûr, il y a un lien entre ce que je lis dans la Bible, ce qu'elle révèle de l'ordre général, et ce que je vis au quotidien. Mais il n'y a pas de raccourci. Quelle est la volonté de Dieu pour l'ensemble des hommes? On l'a dit tout à l'heure, que nous soyons sauvés, que nous soyons transformés, que nous entrions dans sa mission. Et c'est bien dans ce grand contexte que notre passage de ce matin prend place. Je vous rappelle qu'on l'a placé dans ce grand thématique. Quelle est la mission de Dieu pour son Église? Et ce passage prend place là-dedans. Il y a bel et bien des prises de décision spécifiques dans la Bible, en général, et dans le livre des Actes en particulier. Mais ces prises de décision ne peuvent pas être déconnectées du grand plan que Dieu nous révèle, de sa volonté pour tous les hommes. Il y a des volontés spécifiques, Paul prend des décisions, mais on ne peut pas déconnecter de ce que Dieu est en train de faire pour l'ensemble des hommes. Et le but de Luc, qui écrit le livre des Actes ici, c'est pas de nous montrer comment Paul a bien répondu au quiz pour savoir qu'il devait aller à Jérusalem. C'est pas ça son but. Mais c'est comment le fait que Paul aille à Jérusalem a accompli le plan de Dieu. La question est renversée. C'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est comment ce qui s'est passé a accompli le plan de Dieu. En fait, Luc ne veut surtout pas qu'on passe à côté. Vous vous rappelez, la grande mission, il l'a révélée dès le début à ses apôtres, dès le premier chapitre, en leur disant « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans ce passage, Luc ne veut surtout pas qu'on ait l'impression que l'opération Jérusalem a été un accroc dans le grand plan de Dieu. Ah zut, Paul s'est fait emprisonner. C'était pas prévu ça. Bon, alors on passe au plan B. Non. Il veut que l'on comprenne que ça l'a fait partie pleinement du plan de Dieu pour amener l'évangile de Jérusalem jusqu'à Rome. Paul a été averti de ce qui allait se passer. Les disciples ont été avertis de ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Et on ne doit pas passer à côté. Quand Paul se fait arrêter à Jérusalem, ça n'est pas un accident. Je ne peux pas isoler les décisions spécifiques des hommes et des femmes que l'on rencontre dans la Bible de l'accomplissement du plan de salut voulu par Dieu. Dieu utilise l'endurcissement du Pharaon dans l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Pourquoi faire ? Pour révéler sa gloire à tous les peuples de la terre. Dieu utilise le péché de David avec Bathsheba pour continuer d'œuvrer pour la lignée du Messie. Dieu utilise l'obéissance d'une jeune fille vierge, plein de foi, nommée Marie. Pourquoi faire? Pour qu'une naissance puisse intervenir dans l'histoire de l'humanité et changer à jamais son cours. Dieu utilise nos décisions spécifiques pour accomplir son grand plan de salut. La question est inversée. Nos décisions spécifiques ne doivent jamais être déconnectées de ce que Dieu est en train de faire. Cela implique que peut-être ma question, est-ce que je dois être médecin? Est-ce que je dois être notaire? Est-ce que je dois attendre que la personne pour mon couple me tombe du ciel ou est-ce que je dois être actif pour la chercher? Fausse notre réflexion quand nous voulons chercher la volonté de Dieu pour nous. Elle a tendance à déconnecter ce qui se passe dans ma vie de ce que Dieu veut accomplir dans l'histoire de l'humanité, dans son grand plan de salut. Je suis invité à rejoindre Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas invité à dire à Dieu, « Dis-moi maintenant ce qui va se passer et ce que je dois faire dans ma vie. » La question, c'est plutôt, quel métier je vais faire, avec quel conjoint je vais me marier ou pas, pour prendre ma place dans la mission que Dieu confie à son peuple, et donc, par extension, à moi en particulier. Que vais-je faire pour prendre ma place dans la mission de Dieu ? Cela vaut pour les grandes décisions, mais cela vaut aussi pour les petites décisions. Hein, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera des plus grandes. Ou c'est dans les petits ruisseaux que naissent les grandes rivières. Ainsi, nos petites décisions sont connectées à cette réflexion ce matin. Une des manières de se demander si mes petites décisions me préparent aux plus grandes, c'est de m'interroger si je pourrais emmener Jésus avec moi dans chacune de ces petites décisions. Est-ce que je pourrais regarder ce film avec Jésus à mes côtés ? Est-ce que je pourrais prendre ce temps pour surfer sur le net avec Jésus qui tient la souris ? Est-ce que ce soir, je devrais plutôt rester tranquille chez moi ou aller à cette soirée ? Autant de questions où la réponse n'est pas imposée, mais où la réflexion, elle, doit être présente. Est-ce que c'est le meilleur moyen de célébrer ma relation avec celui qui me confie une mission plus grande ? Voilà donc le premier principe que nous pouvons garder ce matin. Je ne peux pas vraiment prétendre être à la recherche de la volonté spécifique de Dieu si je ne suis pas en train de le rejoindre dans ce que lui est en train de faire pour l'humanité. Et je pense que bon nombre de nos questions trébuchent sur cette problématique. Parce que je ne suis pas en train de chercher vraiment à rejoindre Dieu dans ce qu'il veut faire. La question n'est pas qu'est-ce que Dieu va faire pour moi, mais comment je vais prendre ma place pour lui. Deuxième remarque sur ce texte. Si Dieu nous invite à le rejoindre dans sa mission en faveur du monde, on peut dire qu'au sein de cette mission, il y a une certaine liberté d'action. C'est ce qui me semble ressortir du passage de ce matin. C'est ce qu'il me semble comprendre de la différence, justement, entre ces deux groupes qui reçoivent chacun une révélation, quelque chose de la part de Dieu, mais qui en ont finalement une conclusion différente. En fait, il y a contradiction dans ce passage si nous voyons le fait d'aller à Jérusalem ou pas comme l'essentiel du texte. On se dit, Paul, si tu sais que tu vas te faire emprisonner à Jérusalem et que ton projet c'est d'aller à Rome, t'as certainement mieux à faire que d'aller à Jérusalem. Mais je ne crois pas qu'ici, ce soit l'essentiel de savoir s'il faut aller à Jérusalem ou pas. Ce qui n'empêche pas le Saint-Esprit d'être particulièrement acteur sur cette question. L'essentiel, comme on l'a dit avant, c'est de rejoindre Dieu dans son plan. Et alors, il me semble que la contradiction du texte tombe. Pour les disciples, est-ce qu'ils rejoignent Dieu dans son plan ? Je crois que oui. Par amour pour Paul, ils l'avertissent du danger qu'ils pressentent, que Dieu leur a, j'ai envie de dire, révélé. Est-ce qu'ils font bien ? Bien sûr qu'ils font bien. C'est leur rôle d'équipier, c'est leur rôle d'ami, de personne qui se préoccupe de Paul. Et c'est d'ailleurs bien ainsi que Paul le reçoit dans ce passage. Est-ce que vous voulez me fendre le cœur ? Mais quand Paul a été arrêté à Jérusalem, est-ce que vous ne croyez pas que la sollicitude des disciples n'a pas été un atout pour affronter cette épreuve ? Le fait que ensemble, ils soient en train d'affronter l'épreuve d'être emprisonnés et arrêtés. Ce qui pouvait briser le cœur au moment de prendre la décision était un réconfort certain. Savoir ces personnes en train de prier, ces personnes préoccupées pour le sort de Paul. Et ce qui est fantastique, c'est que cet amour pour Paul ne se transforme pas en un amour étouffant. Le Seigneur nous a dit que tu ne devais pas y aller. Non. Voilà ce que le Seigneur nous révèle. Mais il laisse ensuite à Paul, reconnaissant que lui aussi a l'Esprit de Dieu, le soin de discerner comment il va le mettre en place dans sa propre réflexion. Et du côté de Paul, je dirais même chose. Il n'est pas en train de balayer d'un revers de main les disciples en disant « Hé, je suis l'apôtre Paul, Ce que vous me dites là, moi, ça fait un mois que j'accepte. Alors vos conseils, vous voulez garder? Je dois aller à Jérusalem. Nous avons là un deuxième principe qui commence à se dessiner quand on cherche la volonté spécifique de Dieu. Il y a tout un tas de faisceaux qui interviennent. Une conviction profonde que Dieu a mis dans le cœur de Paul. Un projet aussi, aller à Rome. Un certain nombre d'éléments de contexte. Il n'y a pas besoin d'avoir un rêve particulier pour comprendre que si Paul va à Jérusalem, il va y avoir des problèmes. Il suffit de connaître un peu Paul. Et ce qui se passe à Jérusalem. Et ce qui s'est passé en territoire païen. Et puis, quand même, malgré tout, une parole de connaissance claire que certaines personnes ont reçue dans ce passage. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aucun de ces éléments ne fait loi à lui tout seul. Il n'y a pas l'idée « Dieu m'a dit » et c'est fini. C'est avec l'ensemble de ces éléments, y compris une parole de connaissance au milieu de tout cela, mis bout à bout, qui vont amener à la prise de décision. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'alors que les protagonistes ne sont pas vraiment d'accord sur la conclusion à donner de ces révélations, de cet ensemble de choses mises bout à bout, ce n'est pas pour autant une occasion de dissension ou de dispute. Au contraire, la recherche de la volonté spécifique de Dieu contribue à renforcer l'affection des disciples les uns pour les autres. Il n'y a pas un espèce d'enorgueillissement de « nous on sait mieux que toi ». Il y a au contraire une valorisation de la différence, de la complémentarité dans l'approche. Et il me semble que c'est l'un des buts de la recherche de la volonté spécifique de Dieu. Vivre cette complémentarité du peuple de Dieu avec cette promesse, nous sommes tous équipés de l'outil par excellence, le Saint-Esprit. Alors ça ne veut pas dire que dans certaines situations, il n'y a pas une direction quand même à garder. On est dans un cas particulier, hein, et c'est ce cas-là que je traite. Mais je veux vraiment souligner cette complémentarité, ce respect et cet amour au sein du corps de Christ pour discerner ensemble la volonté de Dieu. Et comment finalement ils vont résoudre la contradiction apparente en ayant la conviction que Dieu accomplira sa volonté coûte que coûte. Quoi qu'il en soit, quel passage libérateur! Ce passage nous libère du fardeau qu'on peut avoir de se dire oh, « Est-ce que je me trompe sur la volonté spécifique de Dieu pour ma vie ?» Si je suis en train de chercher à entrer dans le plan de Dieu, ce premier point que j'ai souligné tout à l'heure, en fait je suis libéré du fardeau de me tromper sur la volonté spécifique de Dieu. Pourquoi ? Ben puisque je suis en train de rechercher à faire la volonté de Dieu en entrant dans sa mission et que de toute façon, la volonté de Dieu s'accomplira coûte que coûte, eh bien en fait, je ne me trompe pas. Même mes détours, même mes passages peut-être propres à ma personnalité, Dieu va les utiliser pour accomplir sa volonté. Libération. Libération. Pour celui qui cherche à accomplir la volonté générale de Dieu, sa volonté morale, il y a une libération vis-à-vis de cette volonté spécifique. Et c'est là ce deuxième principe. Ma responsabilité, c'est d'avancer main dans la main avec mon Dieu, en prenant des initiatives cohérentes avec son plan, en purifiant mes désirs par une meilleure compréhension de son salut, en obéissant à ce qu'il dit clairement dans sa parole, et en lui faisant confiance à chaque étape. Il est souverain. Rien ne lui échappe. Il accomplira sa volonté pour ma vie. À partir de là, je peux prendre des initiatives. Faire ce qui est clair et qui dépend de moi. Et pour le reste, lui faire confiance. Car j'ai cette assurance. Quoi qu'il arrive, Dieu accomplira sa volonté. Troisième et dernière remarque concernant la volonté de Dieu dans ce passage. Ce passage souligne, me semble-t-il, le grand malentendu entre nous et Dieu. C'est quoi ce grand malentendu ? Eh bien, un peu comme Pierre, qui ne concevait pas que son Seigneur puisse finir son ministère cloué sur une croix. Eh bien, les disciples de ce passage ne conçoivent pas que leur leader, Paul, finisse en prison alors qu'il y a encore tant et tant à faire. Ils ne conçoivent pas que cela fasse partie du plan de Dieu, qu'il soit emprisonné et peut-être condamné. C'est comme si pour eux la volonté de Dieu ne pouvait pas comporter cette part de souffrance. Paul, de son côté, avait saisi, de par son parcours, et notamment de par son passé, persécuteur d'église, devenu persécuté. Il avait saisi que son engagement pour Dieu n'excluait pas la souffrance. Et d'ailleurs, Dieu l'avait averti dès son appel lorsque Ananias était venu le voir en acte 9. Pourtant, Paul n'est pas un kamikaze. À aucun moment, il ne cherche à être arrêté, à prouver sa grande foi en allant au-devant des soucis, à montrer à tous qu'il peut supporter plus que tout autre cette part de souffrance. C'est quoi la première chose qu'il a faite en arrivant à Jérusalem ? C'est se soumettre à un rituel juif qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour sa propre spiritualité, si ce n'est justement de montrer qu'il n'avait rien contre les Juifs, qu'il n'était pas devenu anti-juif, et pour chercher à rejoindre ceux qui l'accusaient. Mais rien n'y fera. Comme Jésus avant lui, Paul sera finalement accusé, battu et emprisonné. C'est ce qu'on lit dans ces versets. L'agitation gagna la ville tout entière et le peuple accourut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul et on le traîna hors de la cour du temple dont on ferma immédiatement les portes. On cherchait à le mettre à mort quand le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence. Aussitôt, il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne. Il commença ainsi plusieurs années d'emprisonnement pour Paul. Et là aussi, on a une clé importante de compréhension de ce passage, sur laquelle Luc veut particulièrement insister à ce moment du livre des Actes. Nous, naturellement, on a l'impression que si on est dans la volonté de Dieu, on est béni, on est prospère. On a l'impression que pour un homme de Dieu comme Paul, s'il est dans la volonté de Dieu, ce qu'il fait va attirer des gens à Dieu. Et là, on ne peut pas dire que ce soit le réveil de Jérusalem. Ça attise plutôt l'endurcissement vis-à-vis de l'Évangile. Paul est frappé, martyrisé, emprisonné. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu pour Paul, ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi c'est aussi la volonté de Dieu, ce que nous lisons là ? Eh bien parce que la souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu veut nous bénir, Dieu nous aime, Dieu veut que nous soyons heureux. Mais Dieu veut aussi que nous apprenions tout cela au cœur de la souffrance. Et ça aussi, c'est libérateur. On n'aime pas trop l'entendre, mais c'est libérateur. Ce n'est pas parce que nous souffrons, ce n'est pas parce que nous sommes malades, ce n'est pas parce qu'il y a une crise dans notre famille ou dans notre couple que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Ça ne nous excuse pas dans notre péché. Mais cela ne veut pas dire obligatoirement que nous sommes hors de sa volonté spécifique, que nous avons raté l'idée de chercher à entrer dans la mission de Dieu. C'est ce qui arrive à Paul dans ce passage. Et cela nous amène à un troisième principe qu'il nous faut avoir en tête quand on cherche la volonté de Dieu pour nos vies. Sa volonté, ce n'est pas notre bien-être, mais c'est notre sanctification, notre transformation. Alors, que retenir de tout cela ? Eh bien, quand on parle volonté spécifique de Dieu, il nous faut changer de lunettes. Chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas demander à Dieu de nous téléguider, mais c'est le rejoindre dans ce qu'il est déjà en train d'accomplir. Dieu nous a donné la liberté de l'aimer ou pas. Dieu nous donne aussi cette grande liberté au sein du cadre de sa volonté. Il nous donne une latitude dans nos choix, parce que c'est cela qui va affermir notre amour pour lui. Mais soyons rassurés. Dans sa souveraineté, Dieu utilisera nos choix pour accomplir sa volonté. Mais en disant cela, on n'est pas en train de dire que chercher la volonté spécifique de Dieu n'est pas essentiel. Ce passage le démontre. Parce qu'en fait, chercher la volonté de Dieu, c'est ce qui nous permet de nous préparer à ce qu'il va faire. Chercher la volonté spécifique de Dieu, c'est ce qui nous permet de nous préparer à ce qu'il va faire. Avec ou sans nous, Dieu accomplira sa volonté. Alors autant que ce soit avec nous, ça nous sera bien plus profitable. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as voulu nous rendre participants de ton plan. Quel privilège et quelle responsabilité. Seigneur, aide-nous à nous poser les bonnes questions. Seigneur, je reconnais dans ma vie que souvent ce sont mes questions qui m'égarent. Ce sont aussi mes questions qui me rapprochent de toi. Alors purifie mes questions pour qu'elles m'aident à te reconnaître comme Dieu, qu'elles m'aident à te voir dans toute ta gloire, dans tout ce que tu accomplis, dans celui que tu es réellement, intimement, au-dessus de moi, pleinement souverain, jamais pris de court, mais aussi avec un ardent désir de me voir entrer dans ta volonté, un ardent désir de conduire mes pas. Alors Seigneur, je te prie que cette recherche de volonté ne soit plus un casse-tête chinois dans nos vies, mais libérateur, comme nous l'avons vu dans ce texte ce matin. Libérateur pour nous réjouir de ce que tu accomplis toujours ta volonté, nous réjouir que dans ces chemins, dans ces directions, tu vas nous parler, tu vas nous montrer ce que tu veux faire, et notre relation en toi va encore grandir. En ton nom, Seigneur. Amen.